Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Dans le monde par nature discret, voire policé de la diplomatie, l'initiative de Thierry Dana aura fait l'effet d'une bombe. La semaine dernière, l'ambassadeur de France au Japon adressait une lettre ouverte à Marine Le Pen pour lui dire qu'en aucun cas, il ne la servirait si celle-ci arrive au pouvoir. « Je préférerais renoncer à occuper les fonctions qui me seraient confiées plutôt que de servir la diplomatie du Front National. » Alors au FN, la réponse n'a pas tardé. « Nous n'aurons aucune difficulté à vous trouver un remplaçant. » Du côté du Quai d'Orsay, l'initiative du diplomate provoque l'embarras. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, lui rappelle qu'il est tenu au devoir de réserve et au principe de neutralité. Alors, cette affaire a le mérite de faire réfléchir aux relations entre l'administration et la sphère politique. Relation d'autant plus complexe à appréhender, écrit Jean-Marc Sauvé, le vice-président du Conseil d'État, que le fonctionnaire est confronté à une double exigence de collaboration et de distanciation par rapport aux politiques. Il doit obéir, mais il a aussi, le cas échéant, un devoir de désobéissance. Devoir de désobéissance, à ne pas confondre avec une forme de résistance qui conduirait certaines administrations à ne pas tenir compte des alternances. Ainsi, Bercy qui, dit-on, n'en ferait qu'à sa tête, quels que soient les ministres. Un tel phénomène est difficile à évaluer, mais il est dénoncé par ceux qui défendent la mise en place d'un spoil system, à savoir le remplacement des hauts fonctionnaires lors de changements de pouvoir au nom de la loyauté partisane. Alors, l'administration peut-elle être déloyale ? Et c'est à cette question que nous allons tenter de répondre ce soir en compagnie de Marie-Françoise Bechtel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée de l'Aisne, vice-présidente de République Moderne, qui est un club de réflexion présidé par Jean-Pierre Chevènement. Vous êtes passée par le Conseil d'État, par un certain nombre de cabinets ministériels. Vous avez également dirigé l'École nationale d'administration de 2000 à 2002. Pour discuter avec vous, Christian Vigouroux, bonsoir.
Bonsoir.
Conseiller d'État, juriste, enseignant. Vous avez dirigé le cabinet de deux ministres de l'Intérieur et de deux garde des Sceaux. Le dernier, je crois que c'était celui de Christiane Taubira.
Exact.
Vous publiez chez Dalloz, Déontologie des fonctions publiques. Je dis vous publiez sans donner de date parce que ce sont des ouvrages qui forcément sont mis à jour régulièrement. Et puis votre dernier ouvrage vient d'être publié lui chez Odile Jacob, Du juste exercice de la force. Vous étiez il y a quelques jours de cela, je crois, sur France Culture pour en parler. Et puis troisième invité, Marc-Olivier Baruc. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, directeur d'études à l'EHESS. Sur votre fiche de l'EHESS, on peut lire que vous avez occupé diverses fonctions dans les administrations centrales de l'État et au sein d'un cabinet ministériel. Je vois que vous êtes venu avec un certain nombre d'ouvrages sous les bras. Ce sont des ouvrages que vous avez signés ou co-signés ?
Ben là, je ne vais pas tous les lire. L'un, c'est le Dalloz sur les grands arrêts du Conseil d'État. Donc, rassurez-vous, je ne vais pas le lire. Celui qui est le plus en lien avec notre sujet, c'est un colloque que précisément le Conseil d'État avait organisé avec l'École des études il y a quelques années, début 2013, et qui s'intitulait « Faire des choix avec un point d'interrogation ». Je crois que c'est le point d'interrogation qui est aussi important. « Les fonctionnaires dans l'Europe des dictatures, 1933-1948 ». Vous savez que Marc Bloch disait que c'est le présent qui pose des questions au passé. Donc là, je crois qu'on est en plein dans notre question. Est-ce que l'histoire donne des leçons et sans faire d'analogie, est-ce qu'il y a des éléments à tirer de ces périodes si complexes et si riches ?
Alors on va voir justement si l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, en tout cas qui nous occupe pas exclusivement, mais à partir de laquelle on a choisi de mener la réflexion à quelques résonances avec des épisodes passés. Commençons donc par cette lettre ouverte adressée par l'ambassadeur de France au Japon, Thierry Dana, qui dit « Je refuserai de servir la diplomatie du Front National ». Est-ce qu'on peut parler d'une faute faite par ce diplomate en tant que fonctionnaire, c'est-à-dire par rapport au statut qui est le sien, Christian Vigouroux?
Je note que le principal intéressé, le maître du statut, c'est-à-dire l'employeur, le ministre, n'a pas prononcé dans sa réponse le mot « faute ». Cette déclaration m'inspire deux réactions. La première, c'est, et ça je le comprends tout à fait, il y a un aspect positif en ce que ce diplomate rappelle qu'il n'est pas propriétaire de son poste. Mais il rappelle en même temps que l'administration n'est pas propriétaire de son dévouement et qu'à tout moment, il peut demander un retrait. Inversement, il faut quand même rappeler rappeler à la nation que le fonctionnaire est fait pour la servir et que le fonctionnaire n'est pas le corps électoral à lui tout seul. Je rajoute que les démissions, ça se fait, ça s'annonce pas nécessairement.
Oui, parce que c'est peut-être ce qu'on lui reproche aujourd'hui, enfin en tout cas ceux qui lui reprochent sa prise de position. Ça, ce n'est pas tant d'avoir envisagé de démissionner si Marine Le Pen arrive au pouvoir que de le faire, que de l'annoncer publiquement et que donc d'intercéder dans une campagne politique.
Alors c'est une question éternelle. Quand en 1981, le général de Boissieu avait démissionné de l'ordre de la Légion d'honneur pour protester contre la possible arrivée du futur président Mitterrand, d'autres membres du Conseil de la Légion d'honneur avaient démissionné pour protester contre la démission en disant que c'était pas à des hauts fonctionnaires ou des dignitaires pour l'ordre de tracer ou de réprouver ce que le corps électoral ferait. Je pense qu'un fonctionnaire doit toujours regarder le choix du peuple.
Marie-Françoise Bechtel, comment est-ce que vous avez réagi à cette prise de position?
Bien sûr, il appartient toujours à un fonctionnaire, un haut fonctionnaire surtout, qui est dans éventuellement des postes sensibles de démissionner s'il s'estime en profond désaccord avec les ordres qui pourraient lui être donnés. Moi, je suis un petit peu gênée par cette sorte de courage qui n'en est pas tout à fait, cette attitude proclamatoire, comme je l'ai été gênée d'ailleurs dans un cas qui n'est pas sans rapport, bien que ce ne soit pas en cause de service au sein de son propre pays, lorsque l'ambassadeur Haro, notre ambassadeur à Washington, a envoyé un tweet un peu vif sur le président Trump. Quoi qu'on pense du président Trump, j'ai trouvé qu'il n'appartenait pas à un haut fonctionnaire et surtout pas à un diplomate de manifester aussi peu de tact.
Alors, là, il a récidivé d'ailleurs l'ambassadeur de France aux États-Unis, cette fois à nouveau à propos de Marine Le Pen, en disant alors il réagit. C'est justement la lettre ouverte de Thierry Danin et il parlait de l'éventualité de l'élection de Marine Le Pen comme une catastrophe totale. Est-ce que ces deux diplomates, pour vous, ont contrevenu à leur obligation de réserve?
Oui, alors le second ambassadeur dont nous parlions, c'est le même qui a toujours beaucoup approuvé la politique de Bush, y compris une politique au Moyen-Orient qui n'était pas celle de son pays. Je ferme la parenthèse. Oui, tout à fait. Je crois qu'il n'appartient pas à de hauts fonctionnaires de proclamer par avance qu'ils ne désirent pas, s'incliner devant le résultat des urnes. Autre chose est, à titre personnel, de donner, j'irai dans la dignité, sa démission, parce que sur le plan des idées, on ne veut pas servir tel ou tel pouvoir. Ce n'est pas la même chose.
Vous avez souvenir de précédents du même ordre, Marc-Olivier Baruch?
Il y en a un qui est un peu célèbre parce que la personne est célèbre, c'est Philippe de Villiers, qui était à l'époque sous-préfet, je crois, en Vendée, terre chère à son cœur, et qui en 1980, lorsque François Mitterrand est élu, décide qu'il ne va pas servir ce pouvoir. Il y a sans doute entre Philippe de Villiers et le pouvoir socialiste une distance comparable à celle entre un fonctionnaire moyen d'une administration et le Front National.
Ça a contribué d'ailleurs à sa célébrité à l'époque.
D'une certaine manière, mais simplement, il ne démissionne pas, il prend une disponibilité. Et je crois qu'il faut être assez précis sur les mots. Démissionner, ça veut dire renoncer à son gagne-pain. Le statut des fonctionnaires permet beaucoup de possibilités qui fait qu'on est en réserve. On garde un traitement principal, sans doute pas l'aspect indemnitaire, donc on perd peut-être en prestige et en traitement. Et du coup, le Front National a raison de dire que l'argent et les honneurs sont des moteurs puissants qui font que tout ambassadeur, tout préfet, tout directeur qui partirait ou qui serait chassé, le gouvernement a tout à fait ce droit, serait remplacé, à mon sens, sans trop de difficultés. Ça s'est vu dans le passé.
Le statut des fonctionnaires prévoit des sanctions lorsqu'un haut fonctionnaire sort de ce principe de neutralité, parce que là, c'est quand même assez manifeste.
Bien sûr.
Christian Légoreau. Le statut, contrairement au droit pénal, ne définit pas les infractions disciplinaires. C'est à l'autorité d'emploi de décider s'il y a eu empiètement par rapport au devoir. Donc l'obligation de réserve, qui, je le rappelle, n'est pas dans le statut de la fonction publique, le Parlement vient encore de le confirmer, mais qui est dans la jurisprudence du Conseil d'État, est interprétée par l'autorité d'emploi. Si elle estime qu'il y a violation, elle peut engager une procédure disciplinaire avec l'échelle des sanctions, mais c'est vraiment à l'autorité de décider.
Et de votre point de vue, est-ce que l'autorité, alors là je vous demande peut-être de vous engager un petit peu plus, mais est-ce que l'autorité devrait décider de sanctions dans ce cas précis, ou bien est-ce qu'on est dans un moment qui est peut-être suffisamment tendu comme ça au niveau politique pour en rajouter, Marie-Françoise Bechtel?
On ne peut pas se substituer à l'autorité, donc Christian Vigouroux rappelait justement qu'elle est la seule à apprécier, naturellement sous le contrôle postérieur du juge. C'est très difficile.
Imaginons que vous soyez ministre des Affaires étrangères.
Moi je l'aurais rappelé à Paris, je l'aurais, si vous me passez l'expression, passé un savon. à la suite duquel j'aurais pris la mesure qui s'impose, mais après avoir consulté autour de moi.
Est-ce que vous l'auriez...
Ce n'est pas un bon exemple.
Oui. Est-ce que vous lui auriez demandé d'appliquer ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la doctrine Chevènement, dont on n'est pas bien sûr, parce que ce n'est pas vous que je vais l'apprendre, que Jean-Pierre Chevènement avait dit ou aurait prononcé cette phrase lors de sa première démission en 1983. Est-ce qu'on n'a jamais retrouvé vraiment cette phrase? Enfin, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne, un fonctionnaire, ça ferme sa gueule ou ça démissionne.
Non, vous ne passez pas du ministre au fonctionnaire, c'est tout à fait différent. L'idée, c'est qu'un ministre qui n'est pas d'accord avec une politique s'honore en démissionnant, c'est tout simplement.
Le fonctionnaire, il se déshonore s'il démissionne?
Non, il ne se déshonore pas, mais il n'y a pas la même, publicité autour de... Je pense que c'est plutôt dans le silence et dans la discrétion qui convient à un fonctionnaire, surtout un très haut fonctionnaire, peut-être surtout même un haut fonctionnaire servant à l'étranger, de dire « je ne suis pas d'accord et je demande un autre poste et je me retire de cette fonction ».
Christian Rigaud.
Je glisse quelque chose qui m'a frappé dans cette affaire qui nous réunit, c'est que c'est un haut fonctionnaire. C'est un vocabulaire que j'aime pas trop, haut fonctionnaire, comme s'il y avait des bas fonctionnaires. Je rappelle qu'on emploie beaucoup le terme haut fonctionnaire, et comme si d'ailleurs les hauts fonctionnaires avaient une liberté de parole qu'on ne suggère pas pour des fonctionnaires de moindre responsabilité.
C'est plutôt le contraire.
Il y a une différence de salaire déjà.
Voilà. C'est aussi et donc ça, il peut y avoir une espèce de malentendu sur hauts fonctionnaires. Je rappelle que dans l'ordonnance de 45 du général de Gaulle, le terme haut fonctionnaire se trouve, mais accompagné du terme haut devoir. Et donc, le haut fonctionnaire doit faire plus qu'aucun autre attention à ce qu'il dit.
Marc-Olivier Lorry.
Si on regarde ce à quoi le fonctionnaire est tenu, le statut des fonctionnaires a mis tellement longtemps à arriver parce que c'est une charte à la fois des droits et des devoirs du fonctionnaire. Et dans l'entre-deux-guerres, la gauche insiste sur les droits et la droite insiste sur les devoirs. On peut considérer qu'on est là sur un ensemble équilibré. C'est un statut, je vous le rappelle, qui était voté en 1983. Et le ministre à l'époque, c'était Anicet Le Pors, un ministre communiste, qui d'ailleurs tient un blog sur le sujet extrêmement précis, intéressant. Et les auditeurs auraient tout intérêt à aller y voir. Mais voilà ce que dit l'article 25. Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. Alors c'est dans cet ensemble-là, et on pourrait dire après tout, la dignité, l'intégrité, la neutralité, peut-être que ça fait un ensemble, et là-dedans, on l'a dit déjà plusieurs fois, le ministre a jugé que l'ambassadeur Dana n'avait pas porté atteinte à ses devoirs. En même temps, soyons clairs, il est très rare qu'un haut fonctionnaire soit poursuivi disciplinairement. Il est encore plus rare, et il y a quand même des cas où certains très hauts fonctionnaires, pour cette expression, les fonctionnaires les plus importants de l'État ont tenu des propos y compris dans la presse, qui pouvait porter atteinte à une sorte de fonctionnement harmonieux du partage entre politique et administration. Donc, de fait, il y a une sorte de tolérance.
Oui, mais dans ce que vous citez, je crois que la notion de dignité a quand même une importance, et je crois qu'il ne faut pas confondre une conception subjective et une conception objective de la fonction, et tout particulièrement de cette dignité.
Ce serait quoi une conception objective de la dignité, parce que c'est extrêmement compliqué, ça, à définir.
Eh bien, c'est qu'un fonctionnaire est nommé pour servir un pouvoir, il ne doit pas par avance dire « je ne servirai pas le pouvoir ». En revanche, sur le plan subjectif, il peut dire « je ne puis pas servir en conscience ce pouvoir, et donc je me retire dans mes forces ».
Ça veut dire qu'un fonctionnaire, par exemple, dans le cadre de ce qu'est son statut, de ce que sont à la fois ses droits et ses devoirs, Christian Vigouroux, peut non pas s'opposer donc à la nature d'un régime, mais aux actes qui sont pris. C'est-à-dire que si le fait montre d'un devoir de réserve, par exemple, d'un droit de retrait, mais je ne sais pas si on peut l'appliquer d'ailleurs à ces cas-là, c'est uniquement par rapport à des actes très précis.
Je crois qu'il faut bien distinguer, laissons pour l'instant le droit de retrait qui est la prise de position face à un danger que le fonctionnaire n'est pas tenu de subir.
L'évoquais parce que le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll a évoqué le droit de retrait en commentant l'affaire Thierry Dana, ce qui semblait assez étonnant.
Mon commentaire, c'est de le laisser de côté, le droit de retrait, ce qui est un problème particulier quand le fonctionnaire a fait face à un péril. Ça a été fait pour ça. Mais là, ce dont nous parlons, c'est l'obligation de réserve. Je veux dire simplement que je distingue le propos et son destinataire. Moi, je pense que le haut fonctionnaire, si on emploie ce terme, comme le fonctionnaire, tout fonctionnaire, a une liberté de ton. J'ai écrit sur l'obligation de non-réserve. Parce que il y a une faute du fonctionnaire qui est de ne pas alerter, de ne pas dire que la mesure que le politique propose va aller dans le mur, n'a pas son financement. Le fonctionnaire doit pouvoir interpeller le politique.
C'est autre chose.
Mais
tout autre chose.
Mais à condition de le faire à sa hiérarchie. Et par contre, là, ce dont nous parlons, c'est un propos tenu à l'égard de la nation et du corps électoral. C'est tout autre chose. Le fonctionnaire n'est pas fait pour être un tribun qui s'adresse à la nation.
Et puis, lorsque le droit applicable le prévoit, il le prévoit. Prenez la clause de conscience du médecin. Qui ne veut pas, des médecins qui ne voulaient pas appliquer, par exemple, les interruptions volontaires de grossesse, sujet qui malheureusement revient d'actualité alors qu'on le croyait réglé. Eh bien, la clause de conscience existe. Elle est dans la loi. Et donc, le médecin qui ne veut pas participer à la mise sur place, par exemple, d'unités permettant l'interruption de grossesse, a le droit de se retirer. Mais le droit qui lui est applicable, je parle ici du praticien hospitalier, le lui permet. Il n'existe rien de tel en ce qui concerne des fonctionnaires haut placés dans les hiérarchies, pour ne pas parler de hauts fonctionnaires.
Il n'existe rien de tel. Est-ce que c'est quelque chose qui a été mis à l'examen, justement, l'idée de mettre en place une forme de clause de conscience pour les fonctionnaires qui pourraient exiger, enfin, demander d'être mis à l'écart de la fonction publique quand le pouvoir ne correspond pas à leurs idées.
Mais de fait, elle existe, cette clause, parce que...
Et là, c'est la démission. C'est
non, la démission, c'est évidemment la situation extrême. Il faudrait regarder les pratiques intérieures, et l'administration, elle est relativement bonne fille, et les fonctionnaires, et notamment les gestionnaires de personnel, sont les personnes directement concernées, connaissent toute une série de dispositifs qui permet à un agent qui ne veut pas remplir telle ou telle mission de faire autre chose, y compris dans les périodes les plus noires. Un fonctionnaire qui ne voulait pas, et je pense par exemple à l'application du statut des Juifs, l'inspecteur de tous les lycées qui s'appelle Gustave Monod, qui est le recteur adjoint, il reçoit l'ordre par le ministre, on ne parle pas de déportation, on parle de l'application du statut, c'est-à-dire l'exclusion des enseignants juifs des lycées et des collèges. Et il reçoit l'ordre par le recteur de réunir les directeurs, les proviseurs, les directrices, leur expliquer ce dont il s'agit. Il fait cette réunion, il obéit à l'ordre hiérarchique, qui n'est pas manifestement illégal, puisque la loi, c'est le statut des Juifs. N'oublions pas que la loi, elle change en fonction de l'Assemblée, de la majorité politique. Il le fait.
Qui n'est pas toujours démocratique.
Non, mais la loi...
Comme c'était le cas en l'espèce.
Et il le fait, et il écrit aussitôt après au recteur en disant « Je vous demande, monsieur le recteur, de transmettre ma démission au ministre parce que je ne peux pas utiliser des termes pareils, je ne peux pas faire cela. Il est inspecteur général, il devient professeur de philosophie en Cagne, il perd du prestige, il perd du traitement, mais il ne se salit pas les mains. » Autre cas, François Bloch-Lainé, haut fonctionnaire, s'il en est, important pour ma génération, François Bloch-Lainé, il a été actif entre les années, disons, 1935 et 1980. Il est un inspecteur des finances qui trouve que la République est vieillotte, qu'il faut connaître mieux le potentiel économique. Il est convoqué par son ministre qui lui dit, Bloch-Lainé, je vous demande justement de faire ce grand recensement pour qu'on sache comment construire une politique économique. Et Bloch-Lainé dit, monsieur le ministre, bien sûr, mais comment faire pour que les Allemands ne soient pas au courant? Et le ministre dit, mais enfin, Bloch-Lainé, on fait ça pour les Allemands. Et Bloch-Lainé dit, à ce moment-là, je voudrais un poste de sous-directeur à la comptabilité publique. Oui. Vous voyez, il y a toujours des moyens de sortir.
Marie-Françoise Bechtel,
oui. Ceci m'inspire un souvenir. Dans ses mémoires, Simone de Beauvoir raconte que, jeune professeur de philosophie, il lui a été demandé de prêter serment qu'elle n'était pas juive. Elle l'a fait tout naturellement. C'est son mérite d'ailleurs de le raconter, parce que beaucoup auraient eu honte, ne l'auraient pas raconté.
C'était une déclaration écrite.
Oui, une déclaration. Et lorsque Sartre est rentré, il était prisonnier à l'époque, elle raconte qu'il lui a passé un savon, il lui a dit « vous n'auriez jamais dû faire une chose pareille ».
Sauf qu'il a dû faire la même.
Non, il ne l'a pas fait, je ne crois pas.
Ah bah, il n'a pas eu le poste alors.
Mais non, il ne l'a pas fait. Il l'a tensé fort vigoureusement. Et vous voyez que même à un niveau qui n'était pas un niveau aussi élevé que celui que vous avez décrit, une personne a pu, et pourtant une personne qui est une intellectuelle et qui l'a prouvé par la suite, et même une intellectuelle courageuse, a pu se laisser complètement prendre dans l'esprit du temps, qui est quelque chose de tout à fait redoutable.
Et on voit avec les exemples que vous évoquiez, Marc-Olivier Paruc, qu'il y a aussi des Alors, des fonctionnaires avec des hauts niveaux de responsabilité, hein, pour pas reprendre le terme de fonctionnaires, qui ont pu s'opposer à des décisions. Est-ce que ça fait partie de ce qui est aujourd'hui, Christian Vigouroux, le devoir de désobéissance que j'évoquais très brièvement au début de d'émission? Devoir d'obéissance, si j'ai bien lu ce qui existe sur les sites publics, c'est la règle. Devoir de désobéissance, c'est l'exception. C'est organisé par la loi du 13 juillet 1983, dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Est-ce que c'est quelque chose qui sert fréquemment?
Ça, c'est une réserve qui peut servir fréquemment, indépendamment même des circonstances historiques dramatiques qui viennent d'être rappelées. Je pense, par exemple, dans les administrations qui ont le contrôle des personnes sous contrainte, ne pas dépasser telle durée de rétention pour des étrangers, de telle mesure de police. Le fonctionnaire a le devoir d'interroger la hiérarchie qui lui donnerait un ordre illégal. Parce que
Arrivez-vous, qui avez fréquenté les ministères de l'Intérieur et de la Justice, d'être confronté à ce genre de dilemme?
Dans toute carrière de fonctionnaire de responsabilité, il a pu avoir des ordres pas dramatiques, historiques.
Mais qui vous ont poussé jusqu'à la désobéissance, ou ça s'est resté au niveau du dialogue avec le ministre?
Ce que je veux dire, c'est qu'entre l'obéissance automatique, lâche, et qui accepte de faire des actes illégaux, et la démission ou le départ du poste, il y a ce que j'ai appelé tout à l'heure l'obligation de non-réserve, c'est-à-dire le devoir de faire de la résistance loyale, c'est-à-dire d'interpeller le chef hiérarchique en lui disant « ça, vous ne pouvez pas me le demander, faites-le vous-même ».
Je citais tout à l'heure en début d'émission, là aussi, Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, qui intervenait à l'ENA, école que vous avez donc dirigée, Marie-Françoise Bechtel, c'était en 2013, et qui dit ceci, je trouve ces propos assez intéressants. En toutes circonstances, le fonctionnaire doit conserver son impartialité et ne pas abdiquer son indépendance d'esprit. Il ne doit pas faire preuve de suivisme, ni renoncer à présenter des mises en garde ou des objections au regard de la bonne administration, de l'efficacité des politiques conduites ou du respect de la règle de droit. Ça serait quoi alors? Ça serait un devoir de franchise à l'égard du politique?
Enfin, c'est bien théoriquement, mais là, ça dépend aussi un petit peu quand même de la position du fonctionnaire. Je ne vois pas un agent de préfecture disant à son préfet ce qu'on va demander là, il m'est difficile de le faire, et tensant son préfet. Franchement, pas souvent, pour ce que j'ai pu voir. Je crois qu'il faut distinguer quand même le niveau hiérarchique du fonctionnaire, et plus on s'approche du pouvoir, plus d'une certaine manière la parole devrait être libre, et moins à certains égards elle ne l'est, dans la mesure où l'administration tire aussi une forme de je ne dirais pas de servilité, bien sûr, mais tire une forme se croit tenu à une forme d'obédience en fonction, de sa propre carrière.
Si
on regarde les choses comme elles sont.
On pourrait considérer l'inverse, Marie-Françoise Bechtel, que plus on monte au niveau hiérarchique, et plus le devoir peut-être de neutralité, d'impartialité, devrait être important, non? Justement,
pour ne pas entraver l'action politique. Mais la neutralité marche dans les deux sens. La neutralité, ça peut consister aussi à ne pas faire état de graves défauts qui pourraient affecter une décision lorsque cette décision n'est pas une décision nécessairement capitale.
Christian Vigouroux.
Les Anglais ont une bonne formule. Il suffit de taper sur Internet Civil Service Code et vous lisez ce très beau texte du code du fonctionnaire britannique qui, pour les fonctionnaires de responsabilité, leur dit: quand vous vous adressez à un ministre, y compris pour lui dire « ça ne va pas, je vous propose une autre solution », pensez toujours qu'il pourrait y avoir l'opposant à côté du ministre. Tenez un langage, c'est les Anglais qui disent ça, tenez un langage qui puisse s'adresser à la fois à l'autorité que vous avez du moment et à peut-être à l'autorité future. Voilà, ça aide beaucoup à la neutralité. Et moi, je diffuse ce message du Civil Service Code.
C'est très intéressant, moi je suis personnellement pour, mais je crains que ça ne soit pas tout à fait dans notre culture.
Alors, notre culture, on va voir si vous considérez qu'elle est respectée dans ces propos qui, là aussi, ont beaucoup fait parler ces derniers temps, sont ceux de Marine Le Pen, qui était en meeting à Nantes à la fin du mois de février et qui a évoqué notamment la question des fonctionnaires et de la loyauté des fonctionnaires, ceux qui sont aujourd'hui en poste et qui seront toujours en poste si jamais elle prend le pouvoir.
Je veux dire publiquement, ici, aux fonctionnaires, à qui un personnel politique aux abois demande d'utiliser les pouvoirs d'État pour surveiller les opposants ou organiser à leur encontre des persécutions, des coups tordus ou des cabales d'État, de se garder de participer à de telles dérives. Dans quelques semaines, ce pouvoir politique qui n'a plus rien à perdre ni de compte à rendre, aura été balayé par l'élection. Mais ces fonctionnaires, eux, devront assumer le poids de ces méthodes illégales car elles sont totalement illégales. Et ils mettent en jeu leur propre responsabilité. L'État que nous voulons sera patriote.
Alors, je rappelle la question que nous posons ce soir. L'administration peut-elle être déloyale? En compagnie de Christian Vigouroux, de Marie-Françoise Bechtel et de Marc-Olivier Baruc, Marine Le Pen, donc à Nantes, fin février, dit « L'État sera patriote ».
Oui, c'est assez inquiétant.
Les fonctionnaires mettent en jeu leurs responsabilités. Sur le fond, ça pose problème, ce genre de propos?
Sur le fond, oui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un État patriote? Est-ce que l'État actuel ne l'est pas? Est-ce que les fonctionnaires actuels ne le sont pas? Alors, il y a d'abord une menace, alors dans un contexte un peu fantasmagorique, de la persécution manifestement illégale. Quand on parle de persécution, c'est d'autres choses qu'on a en général en tête. Non, moi, c'est plutôt, et je crois que là, il faut revenir, peut-être sortir de la norme classique et revenir à la situation actuelle. Si les ambassadeurs ne font pas, à chaque élection, des déclarations du type de celles qu'a faites l'ambassadeur au Japon. C'est donc que c'est un cas particulier, c'est un parti particulier. Alors, s'il vient au pouvoir par les urnes, il viendra de manière tout à fait légale et démocratique, et l'administration sera tenue de lui obéir. En même temps, jusqu'où? Jusqu'où? Imaginons, parce qu'on dit il ne faut pas obéir à l'ordre manifestement illégal. La loi, elle change. Une majorité, elle refait une loi. Donc, ce qui était manifestement illégal devient manifestement légal.
Il y a des principes au-dessus des lois.
Oui, il y a une constitution, mais ça change aussi la constitution. Le Conseil constitutionnel, il semble bien implanté. On peut décaler un tout petit peu, on peut faire un peu de politique fiction, parce que malheureusement, ce qui s'est passé jadis n'était pas non plus concevable 5 ans auparavant. Alors, moi, j'ai horreur des amalgames où on dit, voilà, c'est la même chose, c'est Vichy, le FN, c'est Vichy, ça, c'est pas ça du tout. Mais il y a un moment quand même où le fonctionnaire reste une personne, comme l'a dit Christian Vigoureux tout à l'heure, avec sa propre liberté de penser, et il se trouve placé, il peut se trouver placé dans une situation très difficile.
Sans aller jusqu'à évoquer ce patriotisme de l'administration dont parlait Marine Le Pen, mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être quand même quelques bonnes raisons de penser que l'administration, et donc ceux qui y travaillent, ne sont pas toujours loyaux, loyal, si c'est l'administration, avec le pouvoir politique en place? On parle en général, l'exemple qui est pris, c'est celui de la direction de Bercy, le ministère de l'économie et des finances, dont on dit que les directeurs restent, les ministres passent, et que finalement que le gouvernement ou que le pouvoir soit à droite ou que le pouvoir soit à gauche, on se retrouve peu ou prou avec des politiques identiques, parce que ce sont justement les directeurs de l'administration centrale qui décident un petit peu de la politique économique de la France. Est-ce que là aussi, on est dans quelque chose d'un peu fantasmé, à votre avis, Christian Vigouroux? Est-ce que c'est un vrai problème aujourd'hui?
Je n'écoute pas ce discours. Parce que si on part du principe que des chefs de bureau ou des directeurs gouvernent, c'est que les ministres ont quelque chose à se reprocher. Un ministre, ça peut commander, ça peut demander des comptes. Et donc, je ne partage pas du tout le discours plaintif qui donne les livres « Non, monsieur le ministre ou madame la ministre, je n'ai pu rien faire parce que l'administration est bloquée ». Beaucoup de ministres de différents courants tiennent ce langage. Je pense qu'il faut d'abord s'interroger sur la manière de gouverner, fixer des objectifs, demander des comptes rendus, contrôler ce qu'on a commandé, et donc que chacun soit à sa place me paraît tout à fait possible. Et Bercy, il y a une continuité dans Bercy, mais parce que la fonction de teneur des comptes et du budget impose de souvent dire non, mais je pense que des ministres qui savent commander peuvent tout à fait commander, y compris à Bercy.
Et là aussi, pour revenir à votre expérience dans les cabinets de ministre de l'Intérieur et de ministre de la Justice, lorsque des décisions politiques étaient prises, elles étaient toujours appliquées par l'administration, ou bien est-ce que quand même, de temps en temps, vous constatiez des phénomènes de résistance en interne?
Si dans l'enfer de Matignon, Madame Baquet titre un de ses chapitres « Le sable de l'administration », c'est sans doute qu'il y a des raisons. Évidemment que c'est difficile, ouais. Et qu'il y a quelquefois des pertes en ligne. Mais c'est un combat, comme dans une entreprise, de se faire faire obéir, et c'est possible.
Marie-Françoise Bechtel.
Oui, ce que décrit Christian Vigouroux, c'est simplement ce qu'est la nature normale du ministre, de l'homme politique. Les politiques sont faits pour décider, et les fonctionnaires sont faits pour appliquer. Du moins dans notre système, parce qu'on a parlé tout à l'heure du système anglo-saxon, où la relation est plus complexe. Il y a un continuum, les anglo-saxons considèrent qu'il y a un continuum entre, pardon, le haut fonctionnaire, je dis pour aller vite, et le ministre. Ce n'est pas le cas en France. En France, nous vivons dans un système dans lequel le ministre tient la politique, normalement, prend la décision politique, et le fonctionnaire assume cette politique jusqu'au moment où il pourrait s'en aller s'il n'était pas d'accord.
Mais ça, ce
et
sont sous les
réserve
principes.
De l'ordre manifestement illégal. Et ce qui se produit en effet, c'est une sorte de dérive sociologique, qu'on a d'ailleurs souvent imputé à l'ENA, sans toujours bien y réfléchir, car il y a dans les ministères beaucoup de très hauts fonctionnaires qui ne sont pas des énarques, et des ingénieurs des mines, des ingénieurs des ponts, qui sont producteurs de normes importantes, des
aussi beaucoup d'énarques qui sont obéissants et qui font leur métier.
Etc. Et, oui, tout à fait, bien sûr. Et, mais ce qui s'est produit, c'est qu'il y a peut-être eu une forme de dérive sociologique, historique, qui fait qu'en effet, les hauts fonctionnaires ont peut-être pris, notamment à Bercy, pas peut-être, je crois sans doute, une place qu'ils n'auraient pas dû prendre. Mais je rejoins Christian Vigouroux là-dessus. La nature a horreur du vide. Ils n'ont pris cette place que parce que les politiques la leur laissaient. Et j'ai une opinion sur ce point, c'est que les politiques qui se succèdent dans ce pays depuis 30 ans ont en réalité des programmes assez peu alternatifs et,
donc c'est moins l'administration
et qui sont très proches des idées de Bercy. Et donc c'est un système à écho, c'est un système qui se répond. Donc c'est assez complexe.
Marc-Olivier Baruch, certains parlent de gouvernement profond, qui est la traduction de Deep State, alors qui vient des États-Unis et selon laquelle voilà, l'administration finalement détiendrait véritablement le pouvoir en dehors des règles du jeu démocratique. Ce gouvernement profond, on le fantasme beaucoup.
Oui, enfin, il y a un conseiller d'État qui a fait scandale en publiant un livre qui s'appelait Le pouvoir administratif. C'était en 1913. Hein, il s'appelait Henri Chardon. Et à l'époque, ça a fait scandale. Donc, vous voyez que cette idée que les bureaux gouvernent et que les ministres se succèdent sans rien faire, ce qui était peut-être vrai sous la Troisième République, les ministres de la Cinquième sont ou peuvent être plus puissants, elle est ancienne. Il y a quand même une particularité française. On dit toujours... c'est à cause de cela que ça marche pas bien, c'est le cabinet. C'est-à-dire des cabinets très nombreux, peuplés plutôt de jeunes gens qui ont envie de faire des carrières plutôt rapides. Donc une forme de déresponsabilisation, malgré tout, des directeurs ou des grands directeurs. Posons que tous les directeurs sont grands, qu'il n'y en a pas de petits. Et donc des hauts fonctionnaires nommés en conseil des ministres pour être les collaborateurs directs du ministre. Le ministre doit ou devrait ou pourrait s'appuyer sur eux. Et je pense que beaucoup de ministres ne se rendent pas très bien compte qu'ils sont aussi les patrons absolus de leur administration. Mmh. J'ai servi dans un ministère, comme vous le rappeliez tout à l'heure, pendant assez longtemps, donc j'ai dû voir, disons, une douzaine de ministres, seulement deux. Ont réuni l'ensemble de leurs cadres pour dire voilà mon programme, voilà ce en quoi je compte sur vous. On peut dire que c'était démagogique, mais malgré tout, le ministre les a reçus, ils ont pu parler au ministre. Je crois que c'est important que ce genre de choses existe.
Alors, il ressort donc de ce que vous dites que finalement, les phénomènes de résistance que j'évoquais, les phénomènes de résistance de l'administration peuvent exister, mais enfin, c'est loin d'être la règle. Est-ce que du coup, ça disqualifie totalement l'idée d'une importation du système américain, le spoil system, qui consiste à renouveler complètement la haute administration lorsqu'il y a une alternance politique pour s'assurer de la loyauté justement de cette administration, Christian Vigouroux. Le spoil system pour la France,
je trouve
ça ne servira à rien.
Je ne dis pas que ça ne servira à rien, mais c'est, là je reprends l'expression de Marie-Françoise Bechtel, ce n'est pas notre culture. Ni tellement la culture de l'Allemagne, ni tellement la culture de la Grande-Bretagne, ni tellement la culture des grands pays européens. Je trouve qu'on a mis à peu près 50 ans à créer le statut. Le statut qui protège le fonctionnaire, ce n'est pas pour le fonctionnaire, c'est pour avoir des gens capables de remplir leurs services indépendamment des alternances politiques et capables de dire les choses réellement parce qu'ils sont protégés, ils peuvent alerter. Et donc le remplacer par le spoil system qui ferait des blocs compacts où on change des milliers de fonctionnaires, je ne suis pas sûr du succès d'une telle mesure.
Sauf que est-ce que ça n'est pas ce qui se passe déjà finalement, Marie-Françoise Bechtel? Je voudrais voudrais juste vous citer un extrait d'un papier qu'a signé il y a quelque temps un avocat qui s'appelle Michel Tally. C'était dans L'Opinion. Et il dit, vu que le spoil system n'existe pas en France parce que c'est aussi assimilé à une forme de chasse aux sorcières, c'est quelque chose qui se fait de manière beaucoup plus longue et beaucoup plus en douceur. Les nouveaux arrivants procèdent en douceur, les remplacements s'étalant sur toute la durée du mandat. Après avoir travaillé avec des directeurs nommés par leurs prédécesseurs, les ministres lèguent à leurs successeurs des collaborateurs fraîchement nommés. C'est-à-dire, il conclut que plutôt que de le changer sur 5 années, il faudrait peut-être mieux le changer d'un seul bloc.
Oui, alors dire qu'il n'existe pas une sorte de spoil system doux, si je puis dire, en effet, je n'irai pas jusque-là. Il arrive en effet que des politiques récemment nommées fassent une véritable valse des directeurs. On parle surtout, je pense ici, des directeurs d'administration centrale, ainsi que des préfets, des ambassadeurs. Mais les préfets ambassadeurs, c'est tellement plus discrétionnaire que là, le spoil system est de fait et presque de droit. Mais si l'on prend l'ensemble des directeurs d'administration centrale, il y a une sorte tout de même d'habitude de qu'un pouvoir politique désire que les directeurs soient loyaux et d'autant plus loyaux. Enfin, porte sa politique et d'autant plus naturellement que les services qu'ils ont à leur disposition sont plus névralgiques.
Ça pourrait être un peu plus poussé.
Mais je ne crois pas. Et là, je partage le point de vue de Christian Vigouroux parce que effectivement, c'est pas d'outil notre culture. Et puis voyez tout de suite l'effet pervers. Les hauts fonctionnaires vont les s'encarter dans les partis. De manière à pouvoir dire qu'ensuite, c'est à eux qu'il faut faire appel. Il y a déjà pas mal de hauts fonctionnaires qui appartiennent à des partis, le cas échéant, mais c'est pas la peine qu'on les pousse, me semble-t-il, à devenir plus partisans qu'ils ne le sont aujourd'hui.
Je crois qu'Emmanuel Macron, parmi ses propositions, indiquait que dans les 3 ou 4 mois, l'ensemble des directeurs en poste seraient soit confirmés, soit remplacés, de sorte que l'administration sache sur quel pied travailler pendant les années du quinquennat. C'est bref, un quinquennat.
Et puisque vous avez évoqué Emmanuel Macron, qui d'ailleurs lui, a démissionné de la haute administration pour parler des liens entre politique et administration, comme Valérie Pécresse, comme Nathalie comme Bruno Le Maire. Alors, on voit quand même que parle de culture, mais enfin, cette culture, elle change aussi Christian Vigouroux.
Oui, la netteté de choix de destin sans retour dans l'administration me paraît parfaitement respectable. Mais sur le spoil system, je voulais dire que j'ai connu, moi, beaucoup de ministres de différents partis qui, arrivant dans leur ministère, faisaient ce que Marc-Olivier Barouche vient de dire, recevaient un à un au confessionnal, selon la formule qu'utilisaient les fonctionnaires du ministère, les directeurs, en leur demandant, est-ce que vous voulez travailler avec moi? Est-ce que vous serez loyal? Même s'ils avaient été nommés par le prédécesseur. Et le tri se faisait par une espèce de contrat renouvelé, avec de chaque côté la possibilité de conclure et de se séparer.
Alors à ce sujet, il y a justement un décret qui est paru au Journal officiel le 24 mai 2016, selon lequel désormais les nominations des directeurs d'administration centrale seront précédées d'un avis non contraignant sur leur aptitude à exercer l'emploi à pourvoir. Je me tourne vers Marc-Olivier Barru qui connaît le Dalloz parfaitement. Ça va changer quelque chose, ce genre de procédure?
C'est un tout petit peu de la poudre aux yeux. Ce qui compte pour un directeur d'administration centrale, au fond, c'est que les gens qui travaillent avec lui aient envie de travailler avec lui. Et comment est-ce qu'on va dire qu'un tel est apte et un tel est inapte, surtout compte tenu de la manière dont est structurée et construite notre fonction publique? Ça, je pense que c'est des concessions faites à l'air du temps, mais c'est du gadget.
Christian Legault. Décret pour décret, j'ai deux observations. Celui de 2016, en réalité, il cache un certain retrait du pouvoir de choix du ministre au profit d'un choix contrôlé par les instances centrales du Premier ministre.
Oui, parce que d'ailleurs, j'ai pas très bien compris qui était dans le comité qui déciderait justement
des nominations. Mon commentaire est celui que je viens de vous faire. Pour moi, il est important que le ministre ait le choix de ses collaborateurs, bien entendu avec l'appui du président de la République et du Premier ministre. Mais je ne suis pas a priori enthousiaste sur le fait qu'on retire de l'autonomie du ministre et de sa responsabilité le choix de ses collaborateurs. Et dans le même genre que le décret de 2016, il y a un autre décret de 2005 qui a rendu les délégations de pouvoir permanentes. Délégations de signature permanentes. Je m'explique. Un ministre, il exerce son autorité en accordant sa signature au fonctionnaire qui le sert. Le fonctionnaire va signer à la place du ministre. Jusqu'à 2005, quand un ministre partait, les délégations de signature tombaient et le nouveau ministre réautorisait qu'on utilise sa signature.
Ça me semblait assez normal. Oui,
En effet. À partir de 2005, l'administration garde ses délégations de signature dès lors qu'un fonctionnaire occupe son poste. Il a la signature théorique du et des ministres.
Oui. Alors, Pour conclure, peut-être justement, Françoise Bechtel, ça c'est quand même problématique, ça.
Oui, oui, tout
symboliquement,
à fait.
C'est lourd.
Autant il ne faut pas que le directeur soit complètement, soit même du tout servilisé, autant il ne faut pas que le ministre découvre que ses directeurs ont des pouvoirs qu'il ne lui a pas lui-même attribués. Vous savez ce que disait Léon Blum, rien ne remplace le face-à-face du directeur, du ministre, avec ses directeurs d'administration centrale.
Eh bien, ça nous servira de conclusion pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie-Françoise Bechtel, Marc-Olivier Baruc et Christian Vigouroux, d'avoir participé à cette discussion que vous pouvez réécouter sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Cyril Baer, Philippine Lebray, Louise Fuseau, émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son ce soir Pierre Faucillon. Demain, qui vote pour l'abstention? Ce sera en quelque sorte l'épisode 2 d'une émission que nous avons fait il y a quelques jours de cela, qui était un débat assez vif, disons. On essaiera d'avoir une discussion un peu plus apaisée demain soir.